Chapitre 26. Mary Pat passe une nuit dans un motel de Huntington Avenue, juste en face de l'église mère de la science chrétienne. Le motel accepte l'argent liquide et ne demande pas de pièce d'identité. Et le plus important, il a un garage en sous-sol où elle peut glisser Bess dans un coin sombre qui sent l'huile. Dans la chambre, elle s'assied dans la quasi-obscurité et regarde vers la place de l'église, de l'autre côté de la rue. Elle ne s'y connaît pas beaucoup en architecture et elle ne sait rien des scientistes chrétiens, mais leur église mère est un édifice impressionnant. Deux bâtiments, le plus petit et le plus anguleux, avec un clocher de granit pointu, est le genre de chose qu'elle s'attendrait à voir à Paris peut-être. Le plus grand, juste derrière, lui fait penser à des photos de Rome qu'elle a vues, un grand dôme tout en haut, dominant de larges voûtes et de grosses colonnes, le tout se reflétant dans le long miroir d'eau étroit qui s'étend sur toute la longueur de la place. Si Jules était venu lui dire, il y a seulement 15 jours, qu'elle allait se convertir à la scientologie chrétienne, ou quel que soit le nom qu'il lui donne, Mary Pat l'aurait renié. Les Fennessy et les Flanagan étaient catholiques romains. Ils l'avaient toujours été, et ils le seraient toujours. Fin de l'histoire. Mais aujourd'hui, Mary Pat trouve cette idée, renier quelqu'un parce qu'il ou elle choisit de croire en une interprétation de Dieu différente, totalement ridicule. Que Jules soit à présent sous la protection du dieu scientiste chrétien, ou du dieu bouddhiste, ou de celui auquel croient les épiscopaliens, la seule chose qui compte pour Mary Pat, c'est qu'elle soit protégée, et qu'elle ne connaisse plus la peur, ni la haine. Elle allume la petite télévision sur la commode et, après avoir tripoté l'antenne, elle parvient à obtenir l'image la plus nette sur la chaîne 5. Elle tombe sur la dernière demi-heure d'un épisode de la série policière Harry O, qu'elle a déjà vu. Son esprit se met à flotter tandis qu'elle reste assise là, sans qu'elle sache où il l'emmène, ni même s'il l'a emmenée quelque part, jusqu'au moment où elle revient brutalement de là où elle était pour s'apercevoir que la chaîne diffuse maintenant les informations. C'est le genre de choses qui lui arrive fréquemment depuis peu, ces petits moments où elle disparaît en elle-même. Elle ne s'endort pas, elle ne somnole même pas, mais le temps disparaît néanmoins. Et elle a l'impression de disparaître avec lui. Au milieu du bulletin d'information, juste avant la rubrique des sports, il mentionne que, demain matin, un service funèbre aura lieu à la 3e église baptiste à l'occasion de l'enterrement d'Augustus Williamson, le jeune homme afro-américain dont la mort tragique survenue à Columbus Station a avivé les tensions raciales à la veille de la mise en œuvre des mesures contre la ségrégation dans nos écoles. Elle se rappelle la lettre que lui a écrite Dreamy à la mort de Noël. Si Mary Pat savait écrire à moitié aussi bien que Dreamy, peut-être qu'elle envisagerait de lui écrire elle aussi une lettre. Mais elle en est incapable. Non seulement elle fait des fautes de grammaire, mais son écriture est horrible. Elle se surprend à contempler de nouveau ces remarquables édifices de l'autre côté de la rue qui se reflètent, avec d'autres constructions voisines, dans ce long miroir d'eau. Nous passons, les bâtiments demeurent. Et avec le temps, même des édifices aussi magnifiques que ceux-là finissent par s'écrouler. Mourir ne me fait pas peur, dit-elle à ses bâtiments, à la chambre, à Dieu. Même pas un peu. Alors qu'est-ce qui te fait peur? Vivre dans un monde où elle n'est plus. Peut-être qu'elle ressent la même chose. Jules? Mais non, espèce d'idiote. Dreamy. La 3e église baptiste de Blue Hills est située sur un petit terrain dans Hosmer Street, au cœur de Mattapan. Quand Mary Pat était très jeune, Mattapan était le quartier où les Juifs vivaient dans une paix plutôt précaire, avec un contingent d'Irlandais pauvres. Et puis les Noirs sont arrivés, et les Juifs ont pris la direction des villes de banlieue ou de certains secteurs de Brookline, tandis que les Irlandais s'enfonçaient dans Dorchester ou remontaient jusque dans Southie. Les synagogues et les boulangeries ont été remplacées par des salons de coiffure et des petits restos servant du poulet. Tandis qu'elle parcourt Morton Street à la recherche d'une place pour se garer, Mary Pat ne pourrait dire combien de salons de coiffure elle a rencontrés. Sans parler des panneaux consacrés à la campagne de recrutement de l'armée, les publicités pour les cigarettes mentholées et les magasins de vente d'alcool. Si ça aussi bat Matapan en ce qui concerne le nombre de bars, Matapan prend le dessus pour ce qui est de l'achat de gnôles à consommer chez soi. Mais il est aussi difficile de trouver une place de parking ici qu'à Saucy, et les gens aiment tout autant se garer en double file. Cependant, les murs et les devantures de magasins sont plus colorés. Il y a des tas de peintures murales éclatantes, chose qu'on ne voit jamais à Saucy. Beaucoup de marquises aux teintes vives et des vêtements, sur les hommes comme sur les femmes, qui virent aux couleurs tropicales. Jaune vif, vert mangue, rose bonbon. Avant qu'elle ne commence à se sentir trop « kumbaya », comme s'il lui serait possible de déménager et de vivre heureuse ici au cas où elle pourrait changer de couleur de peau, elle remarque toutes les grilles au-dessus de leur vitrine de magasin, toutes les fenêtres équipées de barreaux, toutes les rues transversales lézardées et parsemées de nids de poules, tous les jardins tellement envahis de mauvaises herbes qu'on ne pourrait pas voir les clôtures si les clôtures ne s'étaient pas affaissées et ne dépassaient pas ça et là de la végétation. « Ayez un peu d'amour-propre », pense-t-elle avec une soudaine bouffée de fierté provocatrice. « Nous sommes différents. » Elle plaide sa cause devant une sorte de juge invisible, tandis qu'elle fait un créneau. C'est comme ça. C'est tout. Tandis qu'elle coupe le contact, un jeune homme costaud, avec un air de voyou, la fixe du regard en passant, se demandant peut-être ce qu'elle pourrait avoir dans son sac à main, ou même ayant des pensées encore plus sombres. Elle n'a pas la moindre idée de la raison pour laquelle elle fait ce qu'elle fait ensuite. La terreur ? Mais elle le fait. Elle lui sourit. Un large sourire amical qu'elle accompagne d'un petit geste de la main. Le jeune homme, en fait pas si costaud que ça, et l'air pas si voyou que ça, mais simplement pauvre, avec des vêtements qui ne sont pas à sa taille, lui sourit aussi. C'est peut-être un sourire légèrement perplexe, un peu hésitant, mais il est gentil et lui rend même son salut d'un mouvement de la tête. Puis il poursuit son chemin. Un garçon, en réalité. Il ne pourrait pas avoir plus de 14 ans. Elle reste assise là, subitement submergée par une nouvelle détestation de soi. Sa fille est morte. Augie Williamson est mort. La vie de plusieurs jeunes qui étaient sur le quai cette nuit-là est brisée. Et son esprit s'accroche encore, avec un désespoir sordide, à toutes les façons possibles de se sentir supérieur à eux. Se sentir supérieur à quelqu'un, n'importe qui. À l'intérieur de l'église, elle s'assied sur un banc tout au fond. Elle est modérément surprise de constater qu'elle n'est pas la seule personne blanche à assister à l'enterrement d'Augie Williamson. Il y en a 9 ou 10 autres parmi la centaine d'individus présents. Une assistance impressionnante, même s'il lui semble, en regardant comment les gens sont habillés, que beaucoup d'entre eux sont des hommes et des femmes politiques et des militants. C'est dans tous les journaux actuellement. Ce qui était d'abord apparu comme un accident semble bien être à présent un crime raciste perpétré par 4 jeunes racistes de ce foyer raciste qu'est South Boston. Le président du comité d'action des gens de couleur de la ville s'est demandé si la mort d'Augie Williamson n'était pas que le premier des lynchages auxquels il fallait s'attendre une fois que leurs enfants seraient conduits en bus à South Boston dès le vendredi suivant. Une responsable connue d'une organisation communautaire s'est également posé la question de savoir s'il y avait une limite à la haine, et un représentant de la coopérative des petites entreprises de Roxbury Crossing a rédigé une pétition pour rebaptiser Columbus Station Augustus Williamson Station, ou tout au moins poser une plaque en son honneur à l'entrée de la station. L'église continue à se remplir et beaucoup de gens ont tout à fait l'air d'appartenir aux classes populaires ou à la petite bourgeoisie, avec leurs vêtements de chez Sears ou Zehr et certainement pas de chez Filings ou Jordan Marsh. Mary Pat a choisi le dernier rang sur la droite, au cas où elle devrait s'éclipser discrètement. Mais un groupe s'approche et lui demande d'un regard de se pousser plus loin sur le banc, tandis qu'une femme âgée avec un déambulateur ferme la marche. Mary Pat s'exécute et presque aussitôt, 5 autres personnes arrivent de l'autre côté, si bien qu'elle se retrouve coincée au milieu de la rangée. Quand elle jette un autre coup d'œil autour d'elle, elle s'aperçoit que l'église est pleine. Il y a même des gens debout dans le fond, en train de s'éventer avec leur recueil de cantiques ou le programme de la cérémonie du jour. Juste avant le début du service, l'inspecteur Bobby Coyne s'avance dans l'aile gauche et va prendre place contre le mur entre deux vitraux. Son regard rencontre celui de Mary Pat et il cligne des paupières de surprise en la reconnaissant. Il lui adresse ce sourire bienveillant qui lui est propre et plisse les yeux, un regard qui dit « Ne vous éloignez pas quand ce sera fini ». La famille entre avec le cercueil. Mary Pat imagine le garçon dans ce cercueil et sa fille à la morgue. Et elle se sent dévastée par la sensation de perte et par le chagrin. Mais aussi par le sentiment d'un péché qu'elle ne parvient pas à nommer, ni même à définir précisément. Mais cela n'en reste pas moins un péché. L'espace d'un instant, elle craint de s'évanouir. L'air est devenu en quelque sorte trop rare et trop dense à la fois. Elle agrippe le dossier de la rangée devant elle et se stabilise en attendant que le vertige passe. Dans l'Église catholique, les enterrements viennent juste après les mariages et Noël pour ce qui est de la longueur de la messe. Mais bien que possédant cette expérience, Mary Pat n'est pas préparée pour ce que peut être la durée d'un enterrement baptiste. Il y a 4 spirituals avant même qu'ils en viennent aux lectures. Et après les lecteurs, le pasteur, un certain révérend Thibaudeau Josiah Hartstone IIIe du nom, rappelle à l'Assemblée qu'il porte le nom de la ville de Thibaudeau en Louisiane, où il y a moins de 100 ans, des miliciens blancs ont attaqué les maisons des ouvriers noirs travaillant dans les champs de canne à sucre, dont le grand-père et la grand-mère du révérend Hartstone, qui s'étaient mis en grève afin d'obtenir un salaire décent, et que ces miliciens blancs ont tué plus de 150 noirs, hommes, femmes, enfants et personnes âgées, dont le grand-père et la grand-mère du révérend Hartstone, pour avoir commis le péché de demander à être traité décemment et percevoir le minimum vital. Mary Pat entend tout un concert d'amen et une poignée de gémissements sonores et de « Jésus vient à notre secours » et de « Seigneur, aide-nous ». Et qui étaient ces 4 enfants blancs de South Boston, sinon une nouvelle milice ? Demande le révérend Thibaudeau Josiah Hartstone IIIe du nom à ses ouailles. En quoi l'ancienne milice était-elle différente de ces 4 brutes égarées qui ont assassiné notre fils chéri, Augustus, pour le crime d'avoir voulu rentrer chez lui? Pour le crime de s'être trouvé au volant d'une voiture qui est tombée en panne? Pour le crime d'avoir voulu améliorer sa situation en suivant cette formation en gestion de zère? Pour le crime d'avoir traversé leur rue, d'avoir marché sur leur trottoir, d'avoir emprunté leur quai de métro? Est-ce que c'est cela, le lait de la bonté humaine dont nous a parlé notre bon Seigneur Jésus-Christ? Mary Pat sent que la tête lui tourne de nouveau. Et elle a la nausée. L'éloge funèbre d'Oggy Williamson se transforme d'une certaine façon en éloge funèbre de Jules. En éloge funèbre de l'héritage laissé par Mary Pat en tant que mère.
« Non ! Non ! »
rugit-il, une main levée vers les poutres de la charpente. « Non ! Parce que mes frères et mes sœurs, ce n'est pas leur monde. C'est notre monde. C'est le monde de Dieu. » Et ils n'avaient pas le droit d'ôter du monde de Dieu un des enfants de Dieu sous prétexte qu'ils n'aimaient pas la couleur de la peau que Dieu lui avait donnée. Mary Pat baisse la tête et déglutit plusieurs fois pour repousser la bile chaude qui lui monte dans la gorge. Des perles de sueur glissent derrière ses oreilles et dans le col de son chemisier. L'une d'elles continue le long de sa colonne vertébrale. Elle garde la tête baissée. Elle prend de profondes respirations.
« Mais Dieu est bon !» dit-il. « Amen ! Dieu est juste ! Dieu dit « Augustus est avec moi désormais !»« Jésus soit loué !»« Et moi, le Seigneur et le Sauveur, je rendrai mon jugement sur ceux qui ont fait du mal à notre frère Augustus, parce que je suis le Seigneur. Le Seigneur soit loué !»
Après avoir conclu son sermon menaçant des feux de l'enfer, le révérend Thibodeau Josiah Hartstone, troisième du nom, se lance dans une interprétation de « The day is past and gone ». Et l'assistance se met à chanter en chœur avec une sorte de fièvre, un mélange de joie, de rage, d'amour de Dieu, de déchirement et de passion qui ne ressemble à rien de ce que Mary Pat a jamais pu voir et entendre. Le sol tremble, les bancs tremblent, les murs eux-mêmes tremblent. Après « The day is past and gone », le père d'Oggy, Reginald, se lève du premier rang et va se placer derrière le lutrin. C'est un homme grand et élégant. Mary Pat l'a rencontré plusieurs fois au fil des années et elle a toujours été frappée par ce mélange de déférence et de gravité qui le caractérise. Ce qui la frappe à cet instant, même depuis le fond de l'église, c'est le désespoir insondable dans ses yeux. Ce n'est pas le désespoir de ceux qui n'ont plus d'espérance. C'est le désespoir de ceux qui se sentent abandonnés. Le premier désespoir est une faiblesse. Le second est une lame de couteau. Ceux qui renoncent sont des victimes, mais ceux qui sont abandonnés ne rêvent que de vengeance.
Oggy était un gamin ordinaire, commence Reginald, la voix étouffée contre le micro. Rebelle, par moments, au cours de son adolescence. Mais jamais au point de nous inquiéter véritablement. Il aimait sa maman. Se disputait avec ses sœurs. Ah, ça, on peut le dire. Il a un petit rire. Il a obtenu son diplôme à la fin du lycée, mais pas avec des notes qui permettaient à un garçon noir d'obtenir une bourse dans une fac ou une autre. Alors, il a commencé à travailler pour ce grand magasin. Il suivait le stage de gestion. Il espérait diriger tout le secteur de la Nouvelle-Angleterre de cette chaîne un jour. Il lève les yeux et son regard va se perdre quelque part au-dessus de l'assemblée. Les vêtements! C'était son truc à Oggy.
Un petit rire assourdi parcourt la foule.
« Pas vrai !» poursuit Reginald. « Les fringues !» il disait. Même petit garçon, il faisait attention à ce qu'il portait. Il aimait les chapeaux, il aimait les chaussures brillantes, fallait que ça brille comme une pièce de monnaie toute neuve, et ses chemises avec les grands cols. Il y a quelques semaines, il avait fait un accroc à son pantalon sur un montant de porte. Il le reprisait lui-même. Je lui dis « Mon garçon, pourquoi tu ne t'achètes pas une salopette? Ça ne t'arriverait pas. » Il me répond « Plutôt mourir que mettre une salopette, pas. Tu le sais bien.
» Reginald se tait un instant. Mary Pat sent que toute l'église attend, se demandant où il veut en venir. Il se penche sur le micro.
« Plutôt mourir que mettre une salopette. »
Il respire bruyamment par la bouche ouverte.
Au lieu de ça, il est allé mourir à South Boston. Enfin, il n'y est pas allé mourir. Il était bien vivant. Mais ensuite, ils l'ont tué. Le Seigneur dit « Pardonnez le pécheur à défaut de pardonner le péché. » Mais, vous savez, le pécheur, qu'il aille se faire foutre.
Ça murmure beaucoup dans l'assistance. Les gens lancent des regards autour d'eux. Plus haut, près de l'autel, le révérend Thibodeau Josiah Hartstone, troisième du nom, arbore un sourire crispé, mais il est penché en avant comme s'il était prêt à se précipiter sur le micro. Reginald Williamson dit doucement
« Qu'est-ce qui va changer? Où ça va changer? Comment ça va changer ?» Les êtres humains ne tuent pas d'autres êtres humains qui sont leurs semblables. Pas facilement. Ils ne font pas ça.
Il recule d'un pas et se passe une main sur la bouche. Il se fige ainsi un instant, la main couvrant sa bouche comme pour y garder les mots à tout jamais. Puis il revient devant le micro et dit
« Ils ne tuent facilement que des êtres humains qui sont différents d'eux-mêmes. Alors, ça ne peut pas changer s'ils ne nous voient pas comme leurs semblables. Ça ne peut pas changer s'ils ne nous voient que comme des êtres différents. »
Il baisse la tête.
« Ça ne peut pas. »
Mais vous êtes différent, pense Mary Pat avant d'avoir le temps d'étouffer cette pensée. Et même tandis qu'elle s'efforce d'endiguer les mots qui se ruent dans son cerveau, la suite force le passage.
Vous l'êtes, un point c'est tout.
La bile qu'elle a fait refluer dans son estomac remonte une fois encore. Une suite de cailloux brûlants qui grimpent dans son œsophage. Elle baisse de nouveau la tête et respire lentement.